Edith Wharton, Lendemain, chapitre 1. Au départ de Bologne, leur compartiment était complet, mais à la première station après Milan, leur dernier compagnon les quitta. C'était un voyageur courtois qui avait tiré un déjeuner frugal d'un sac en tapisserie et les avait salués en se levant du coussin jonché de miettes. L'œil de Lydia suivit avec regret son paletot luisant jusqu'à ce qu'il eût disparu dans la foule des quémandeurs et des cochers de fiacre qui se tenaient aux abords de la gare. Puis elle regarda Gannett et saisit le même regret dans ses yeux. Tous les deux, ils étaient fâchés d'être seuls. « Partenza !» cria l'employé. Le train vibrait sous la secousse des portières fermées brusquement. Un garçon du buffet courut le long du quai avec un plateau de sandwich fossile. Un porteur en retard jeta dans une voiture de troisième classe un paquet de châles et de cartons. L'employé répéta un « Partenza !» très bref, d'où l'on pouvait conclure que le premier appel avait été purement de parade, et le train roula hors de la gare. La direction de la voie avait changé. Un rayon de soleil par-dessus les poussiéreux coussins de velours rouge atteignit le coin de Lydia. Gannett n'y prit point garde. Il s'était replongé dans la revue de Paris, et Lydia dut se lever pour baisser le store. Sur le vaste horizon de leur existence inoccupée, de tels incidents se dessinaient nettement. Après avoir baissé le store, Lydia se rassit, laissant toute la longueur du compartiment entre elle et Gannett. À la fin, il s'aperçut qu'elle n'était plus en face de lui et leva la tête. « Oh, j'ai fui le soleil !» expliqua-t-elle bien vite. Il la regarda curieusement. À travers le store, le soleil frappait encore son visage. « Très bien, » dit-il tranquillement. Et tirant de sa poche un étui à cigarette, il reprit « Vous permettez ?» Ce fut pour elle un repos, un relâche à la tension de son esprit. Cette idée qu'après tout, s'il pouvait fumer... Mais ce relâche ne fut que d'un moment. Elle n'avait pas grande expérience des fumeurs, son mari ayant réprouvé l'usage du tabac, mais elle croyait savoir que dans certains cas, les hommes fumaient pour s'étourdir. Gannett, après une ou deux bouffées, reprit sa lecture. C'était bien ce qu'elle avait prévu. Il craignait de parler tout autant qu'elle. C'était une des misères de leur situation qu'il ne fût jamais assez occupé pour que cela nécessitât ou même excusât l'ajournement des discussions pénibles. S'ils évitaient un sujet, c'était bien évidemment parce que le sujet était désagréable. Ils avaient des loisirs illimités et toute une accumulation d'énergie mentale à consacrer à la première question qui se présentait. Pour eux, tout ce qui était nouveau faisait prime. Lydia avait parfois comme des pressentiments qu'ils en arriveraient à une période de disette où il ne resterait plus rien de quoi parler, et elle s'était plus d'une fois surprise à distiller goutte à goutte ce que, dans la prodigalité de leur première confidence, elle aurait débité d'une haleine. Leur silence pouvait donc s'expliquer par le fait qu'ils n'avaient rien à se dire. Mais un autre des avantages de leur position, c'était les occasions multiples qui s'offraient à eux de classer les moindres nuances. Lydia avait appris à distinguer entre les silences réels et les silences factices. Et à cet instant, sous celui de Gannett, elle découvrait un bourdonnement de paroles auxquelles ses propres pensées répondaient non moins impétueusement. Et pouvait-il en être autrement avec cette chose entre eux? Lydia leva les yeux vers le filet au-dessus d'elle. Oui, la chose était là, dans son sac de voyage, symboliquement suspendue sur leurs deux têtes. Il y pensait à ce moment tout comme elle. Ils y avaient pensé à l'unisson depuis qu'ils étaient montés dans le train. Tant que le compartiment avait contenu d'autres voyageurs, ceux-ci avaient mis entre elle et lui comme un écran. Maintenant qu'ils étaient seuls, Lydia savait exactement ce qui se passait dans l'esprit de Ganette. Elle l'entendait se demander ce qu'il devait lui dire. C'était ce matin même à Bologne, lorsqu'il se préparait à quitter l'hôtel, que la chose était parvenue à Lydia sous l'aspect innocent d'une enveloppe banale avec le reste de leur courrier. En décachetant la lettre, elle avait continué à rire avec Ganette de quelque ineptie du guide local. Ils en étaient réduits depuis quelque temps à tirer le meilleur parti possible des incidents humoristiques du voyage. Même lorsqu'elle eut déplié la feuille, elle s'imagina que c'était un papier d'affaires insignifiant qu'on lui envoyait à signer. Ses yeux parcoururent distraitement les attendus tourbillonnants du préambule jusqu'à ce mot qu'il arrêta « divorce ». Oui, il était bien là, ce mot, dressant une barrière infranchissable entre le nom de son mari et le sien. Elle avait été préparée, bien entendu, comme les gens bien portants sont préparés à la mort. Ils savent qu'elle doit venir, sans s'attendre le moins du monde à ce qu'elle vienne. Elle avait su, dès le début, que T. Hudson comptait demander le divorce contre elle. Mais que lui importait? Rien ne lui importait dans ses premiers jours de suprême délivrance, hormis le fait qu'elle était libre. Et pas tant, elle commençait à s'en apercevoir, le fait d'être ainsi délivrée de Tilson que celui d'appartenir maintenant à Ganette. Cette découverte l'avait choquée dans l'estime qu'elle avait d'elle-même. Elle aurait mieux aimé croire que Tilson incarnait à lui seul toutes les raisons qu'elle avait eues de le quitter, et ses raisons lui avaient paru assez puissantes pour n'avoir pas besoin de renfort. Et pourtant, elle ne l'avait quitté qu'après avoir rencontré Ganette. C'était son amour pour Ganette qui avait fait de la vie avec Tillotson une si pauvre et médiocre affaire. Si, dès le principe, elle n'avait pas regardé son mariage comme un plein abandon de ses droits sur la vie, elle l'avait tout au moins accepté, pour un certain nombre d'années, comme une compensation provisoire. Elle en avait pris son parti. L'existence chez les Tillotson dans leur spacieuse maison de la 5e avenue, avec Mrs. Tillotson mère, commandant les abords par ses fenêtres du second étage, l'existence avait été réduite à une série d'actes purement automatiques. Le moral de l'intérieur T. Hudson était aussi soigneusement protégé, aussi pourvu de paravents et de rideaux que la maison elle-même. Mrs. T. Hudson, mère, craignait tout autant les idées que les courants d'air. Ces gens prudents aimaient une température égale. Pour eux, faire quelque chose d'inattendu était aussi absurde que de sortir sous la pluie. Un des principaux avantages de la richesse était de supprimer les éventualités imprévues. Avec une fermeté ordinaire et un peu de bon sens, on pouvait être sûr de faire exactement la même chose tous les jours à la même heure. Ses doctrines révérencieusement sucées avec le lait de sa mère, T. Tillotson, le fils modèle, qui n'avait jamais donné à ses parents une heure de souci, les exposait complaisamment à sa femme et citait comme preuve de l'importance qu'il y attachait la régularité avec laquelle il mettait ses caoutchoucs les jours de pluie, sa ponctualité au repas et ses précautions compliquées contre les cambrioleurs et les maladies contagieuses. Lydia, élevée dans une ville de province et entrant dans le monde de New York par le portail de la maison Tillotson, avait accepté machinalement cette manière d'envisager les choses comme inséparables du banc qu'on avait dans les premiers rangs au temple et de la baignoire qu'on avait à l'opéra. Tous les gens qui venaient chez eux évoluaient dans ce même cercle étroit de préjugés. C'était la société où, après dîner, les femmes comparent les prix exorbitants que leur coûte l'éducation de leurs enfants et conviennent que, malgré les nouveaux droits sur les vêtements importés de France, au bout du compte, il est meilleur marché de tout prendre chez Worth, tandis que les maris, en fumant leurs cigares, se lamentent sur la corruption municipale et décident que, pour faire des réformes, il faut des hommes qui n'aient pas d'autres intérêts personnels en jeu. Cette façon de considérer la vie était devenue pour Lydia une chose toute naturelle, de même que le majestueux landau de sa belle-mère lui semblait le seul moyen de locomotion possible, et que le serment d'un élégant presbytérien chaque dimanche était l'inévitable expiation à subir pour s'être ennuyé pendant les 6 jours de la semaine. Avant la rencontre de Gannett, cette vie lui avait paru simplement monotone. Mais depuis lors, elle ressemblait, cette vie, à une de ces tristes gravures de Cruikshank où tout le monde est laid et se livre à des occupations vulgaires ou stupides. Il était naturel que Tillotson fut le premier à pâtir de cette optique nouvelle. Le voisinage de Gannett avait rendu Tillotson ridicule. Une part de ce ridicule retombait sur sa femme. Qu'elle y parut indifférente, et Gannett soupçonnerait chez elle un manque de sensibilité dont elle devait coûte que coûte se justifier à ses yeux. Mais cela, elle ne le comprit que plus tard. Sur le moment, elle s'imagina tout simplement avoir atteint les limites de l'endurance. Dans la magnifique liberté que semblait lui conférer le seul acte de quitter Tillotson, la petite question de divorcer ou de ne pas divorcer ne comptait pas. Mais quand elle s'aperçut qu'elle n'avait quitté son mari que pour vivre avec Gannett, elle vit clairement le sens de tout ce qui touchait à leur relation. Son mari, en la rejetant, l'avait pour ainsi dire poussée dans les bras de Gannett. C'était ainsi que le monde a envisagé la chose. Le degré d'empressement avec lequel Gannett la recevrait allait devenir le sujet d'intéressantes controverses autour des tables athées dans les cercles. Elle savait ce qu'on dirait d'elle. Elle l'avait entendu si souvent à propos d'autres. Ce souvenir la consterna. Les hommes parieraient probablement que Gannett ferait ce qu'il était convenable de faire, mais les sourcils des femmes indiqueraient à quel point cette fidélité forcée leur paraîtrait sans valeur. Et après tout, elles auraient raison. Lydia s'était placée dans une situation où Gannett lui devait quelque chose, où, galant homme, il était tenu de réparer. L'idée d'accepter une telle compensation ne lui avait jamais traversé l'esprit. La prétendue réhabilitation que serait un tel mariage, voilà pour elle la seule véritable honte. Ce qu'elle redoutait surtout, c'était d'avoir affaire à s'expliquer avec Ganette, d'avoir à combattre ses arguments, à calculer, malgré elle, l'exacte mesure d'assistance par laquelle il chercherait à les lui imposer. Elle ne savait pas ce qui lui faisait plus horreur, qu'il insistât trop ou trop peu. Dans un cas pareil, le sens des proportions, même le plus fin, pouvait se trouver en défaut. Combien facilement il pouvait commettre cette erreur de prendre sa résistance à elle pour une épreuve de sa sincérité à lui. De quelque côté qu'elle se tourna, elle se heurtait à l'ironie des circonstances. Elle avait ce sentiment exaspéré de s'être prise au piège de quelque mauvaise plaisanterie. Au fond de toutes ces préoccupations, il y avait la crainte de ce que Ganette pourrait penser. Tôt ou tard, naturellement, il faudrait qu'il parlât, mais qu'il pût penser un moment que ses paroles auraient le moindre effet, Lydia, en attendant, trouvait cela simplement insupportable. Sa sensibilité à ce propos s'aggravait d'une autre crainte à peine consciente jusque-là, celle d'entraver involontairement la liberté de Ganette. Le regarder comme l'instrument de sa libération, résister en elle-même à toute velléité de mainmise conjugale sur son avenir, à lui, elle avait jugé que tel était le seul moyen de maintenir la dignité de leur relation. Ses idées n'avaient pas changé, mais elle se sentait de plus en plus incapable de fixer son esprit sur le point essentiel, la rupture avec Ganette. Sans doute il était facile de l'admettre tant qu'elle en reculait assez l'échéance, mais par le fait même qu'elle l'ajournait aussi mentalement, est-ce qu'elle n'empiétait pas un peu sur l'avenir de Ganette? Il faudrait qu'il eût le courage de discerner le moment où, par un mot ou un regard, leur association volontaire se transformerait en esclavage, d'autant plus dur qu'il ne serait fondé sur aucune de ces obligations communes qui assurent l'équilibre du mariage le plus défectueux. Lorsqu'à la station suivante, un facteur ouvrit la portière, Lydia se recula pour faire place à l'intrus qu'elle espérait. Mais personne ne monta, et le train continua de rouler barresseusement à travers les blés printaniers et les taillis en bourgeons. Mais elle commençait à espérer que Ganette parlerait avant le prochain arrêt. Elle le guettait furtivement, songeant à revenir s'asseoir en face de lui. Mais la manière dont Ganette s'absorbait dans sa lecture était vraiment trop voulue. Lydia ne bougea pas. Elle ne l'avait jamais vu lire avec un air si évident de repousser toute interruption. Mais à quoi pouvait-il donc bien penser? Pourquoi avait-il peur de parler? Ou bien redoutait-il la réponse qu'elle lui ferait? Le train s'arrêta pour laisser passer un express. Ganette posa son livre et regarda par la fenêtre. Tout à coup, il se tourna vers Lydia en souriant. « Ah, voici une charmante vieille villa, » dit-il. Ce ton aisé fut un soulagement pour elle, Elle lui répondit par un sourire en traversant pour venir à lui. Au-delà du talus, par la brèche ouverte dans un mur couvert de mousse, elle aperçut la villa avec ses balustrades effritées, ses fontaines endormies et le satyre de pierre achevant la perspective du tapis vert. « Vous plairiez-vous là ? » demanda-t-il au moment où le train se remettait en marche. « Là ? Ou dans un endroit de ce genre ? Enfin, il y a au moins 2 siècles de solitude sous ces ifs. Cela ne vous plairait pas ?»«
Je ne sais pas, » balbutia-t-elle.
Mais elle comprenait maintenant qu'il voulait parler. Il alluma une autre cigarette. Oh, « Il faudra bien nous établir quelque part, pourtant, » dit-il en se penchant vers l'allumette. Lydia répondit en s'efforçant à l'insouciance. « Oh, l'on voit pas la nécessité. Pourquoi ne pas vivre un peu partout, comme nous l'avons fait jusqu'ici ?» Mais nous ne pourrons pas voyager toujours, n'est-ce pas ? Oh, toujours est un bien grand mot, répliqua-t-elle en ramassant la revue qu'il avait jetée de côté. Enfin, je veux dire, tout le reste de notre vie, fit-il en se rapprochant. Mais Lydia, par un léger mouvement, esquiva la main qui l'étendait vers la sienne. Pourquoi donc faire des plans ? Ne trouvez-vous pas, comme moi, plus agréable de se laisser aller au fil de l'eau ? Il la regarda avec hésitation. Agréable, oui, pour un temps, c'est certain. Mais ne faudra-t-il pas que je me remette au travail un de ces jours ? Vous savez que je n'ai pas écrit une ligne depuis tous ces temps-ci. Corrigea-t-il vivement. Elle tourna vers lui un visage rayonnant de sympathie et de remords. « Oh, si c'est là ce que vous voulez dire, si vous désirez écrire, il faut bien entendu que nous nous arrêtions quelque part. Comme je suis sotte de n'y avoir pas pensé plus tôt. Où irons-nous ? Où pensez-vous pouvoir le mieux travailler ? Il ne faut plus perdre de temps. » Il hésita encore. J'avais pensé à une villa dans ces parages. Personne ne nous ennuierait. C'est calme. Cela vous irait-il ? Mais oui. Elle se tut et regarda d'un autre côté. Cependant, je croyais. Enfin, ne m'avez-vous pas dit une fois que. Votre meilleur travail, vous l'aviez fait au milieu de la foule, dans les grandes villes. Pourquoi nous enfermer dans un désert ? Gannett ne répondit pas tout de suite. À la fin, tout en évitant son regard aussi soigneusement qu'elle évitait le sien, « Oh, ce ne serait peut-être plus la même chose à présent, » fit-il. « Je ne peux rien dire, naturellement, avant d'avoir essayé. Un écrivain ne devrait pas être dépendant de son milieu. C'est une erreur de se laisser aller de telle complaisance envers soi-même. Et je pensais que, pour les premiers temps au moins, vous préféreriez être... » Elle le regarda en face. « Être quoi ? Eh bien, mais... Être tranquille, je veux dire. Mais que voulez-vous dire par les premiers temps ? Interrompit-elle. Il se tut de nouveau. Puis, je veux dire, après notre mariage. Elle eut un haut le corps et se tourna vers la fenêtre. Merci. Répliqua-t-elle sèchement.
Lydia! S'écria-t-il décontenancé. Et Lydia eut jusqu'au plus profond de son être la sensation qu'il avait commis l'inconcevable, l'impardonnable erreur d'anticiper son consentement. Le train continuait son vacarme, tandis que Gannett prenait à tâtons une troisième cigarette. Lydia se taisait toujours. « Je ne vous ai pas fâché, » répliqua-t-il enfin sur le ton d'un homme qui cherche sa voix. Elle secoua la tête avec un soupir. « Oh, je croyais que vous compreniez, » fit-elle. Leurs yeux se rencontrèrent et elle revint se blottir auprès de lui. « Voulez-vous savoir comment ne pas me fâcher ?»« En tenant pour acquis, une fois pour toutes, que vous m'avez dit ce que vous aviez à me dire sur cette odieuse question, que j'ai fait de même et qu'ainsi nous nous retrouvons juste au point où nous en étions ce matin avant que cet exécrable papier vînt tout gâter entre nous. » Tout gâté entre nous, mais que diable voulez-vous dire? N'êtes-vous pas heureuse d'être libre? J'étais libre avant, pas de m'épouser. Mais je ne veux pas vous épouser, s'écria-t-elle. Elle le vit pâlir. Ah, pardonnez mon manque de perspicacité, dit-il lentement. J'avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir. En avez-vous assez? Ou bien ai-je été simplement un prétexte à votre départ? Peut-être aviez-vous peur de voyager seul? Est-ce cela? Et maintenant vous voulez me lâcher? Sa voix était devenue rauque. Vous me devez une réponse franche, vous savez. « Pas de pitié, je vous en prie !» Les yeux de Lydia se remplirent de larmes tandis qu'elle s'inclinait vers lui. « Mais ne voyez-vous pas, dit-elle, que c'est parce que je vous aime, parce que je vous aime tant, oh, Ralph, ne comprenez-vous donc pas combien cela m'humilierait ? Mais tâchez de vous mettre à ma place. Voyez quelle misère de devenir votre femme dans de pareilles conditions. Si je vous avais connue quand j'étais jeune fille, c'eût été un vrai mariage. Mais maintenant, cette fraude vulgaire à l'égard de la société, d'une société que nous préprisions et dont nous nous moquions, pour entrer subrepticement dans une situation que nous avons volontairement quittée. Mais ne voyez-vous pas que c'est un compromis indigne de nous? Ni vous ni moi ne croyons à l'abstraite sainteté du mariage. Nous savons tous les deux que point n'est besoin d'une cérémonie pour consacrer notre mutuel amour. Quelle serait donc notre raison de nous marier, sinon la crainte secrète de chacun que l'autre n'échappe, ou bien le secret désir de regagner tout doucement, l'estime des gens dont nous avons toujours haï et bafoué la moralité conventionnelle. Le seul fait que ces gens-là pourraient, après un intervalle convenable, venir dîner avec nous. Oui, ces femmes qui pérorent sur l'indisciplinité du mariage et qui me laisseraient aujourd'hui mourir dans leur ruisseau parce que je vis dans le péché. Est-ce que cela ne vous pas plus que de les voir nous voir tourner le dos maintenant? Je peux supporter d'être coupé par elle, mais je ne pourrais pas supporter leur visite quand elle viendrait me demander ce que je compte faire, si je compte aller voir cette malheureuse madame une telle. Elle s'arrêta. Gannett gardait un silence perplexe. Vous jugez des choses trop théoriquement, dit-il enfin d'une voix lente. La vie n'est faite que de compromis. La vie dont nous sommes évadés, oui. Si nous avions consenti à les accepter, ces compromis, elle rougit, nous aurions pu continuer de nous rencontrer au dîner de Mrs. Tillotson. Il sourit légèrement. Je ne pensais pas que nous étions partis pour fonder un nouveau système de morale. Je croyais que c'était parce que nous nous aimions.
La vie est complexe. Oui, sûrement. Et n'est-ce pas le fait même de l'avoir ainsi qui nous sépare des gens qui la voient tout d'une pièce? S'ils ont raison, eux, si le mariage en lui-même est sacré, et s'il faut que l'individu soit toujours sacrifié à sa famille, alors il ne peut y avoir de vrai mariage entre vous et moi, puisque notre vie commune est une protestation contre le sacrifice de l'individu à la famille. Et elle s'interrompit en riant. Vous allez dire maintenant que je vous fais une conférence de sociologie. Chacun agit bien entendu comme il peut, tiraillé par toute espèce de fils invisibles, mais au moins rien ne nous force à faire semblant, pour des avantages mondains, de souscrire à un credo qui méconnaît la complexité des motifs humains, classe les gens par des signes arbitraires et met à la portée de tous l'honneur de figurer sur la liste de Mrs. Tillotson. Il peut être nécessaire que le monde soit régi par des conventions, mais si nous y croyions, pourquoi nous en sommes-nous affranchis? Et si nous n'y croyons pas, est-il honnête de profiter de la protection qu'elles assurent? Gannett hésita. On peut y croire ou n'y pas croire, dit-il. Mais tant qu'elles gouvernent le monde, ce n'est qu'en profitant de leur protection que l'on peut trouver un modus vivendi. Mais est-ce que les gens hors la loi ont besoin de motus vivendi? Il la regarda découragé. Il n'y a en effet rien de plus déconcertant pour un homme que le procédé mental d'une femme qui raisonne ses émotions. Lydia crut alors avoir marqué un point et poursuivit passionnément son avantage. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point une telle idée m'humilie. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons voulu. Ne cherchons pas plus loin. Elle lui prit les mains. Promettez-moi que vous ne me parlerez jamais plus de cela. Promettez-moi que vous n'y penserez même plus, implora-t-elle en accentuant les mots avec émotion. À travers tout ce qui suivit, protestations, arguments de Gannett, soumission finale, mais sans conviction, Lydia eut le sentiment qu'il ne discernait qu'à moitié tout ce qui, pour elle, avait rendu ce moment si pathétique. Ils avaient atteint ce point mémorable dans toutes les histoires de cœur
où pour la première fois l'homme paraît inintelligent et la femme déraisonnable. À la réflexion, ce fut l'empressement un peu maladroit de Ganette qui consola Lydia de son manque de finesse. Après tout, n'eût-ce pas été pire, incalculablement pire, s'il s'était montré trop prompt à la comprendre.
Chapitre 2. Quand, à la tombée de la nuit, le train les déposa enfin au bord d'un des lacs, Lydia fut bien aise de n'avoir pas, comme d'habitude, à passer d'une solitude dans une autre. Leur perpétuel voyage depuis un an avait ressemblé à une fuite de proscrits. À travers la Sicile, la Dalmatie, la Transylvanie et l'Italie méridionale, ils avaient tacitement persisté à éviter leurs prochains. L'isolement, d'abord, avait donné une saveur plus profonde à leur bonheur, comme la nuit donne plus d'intensité au parfum de certaines fleurs. Mais dans la nouvelle phase où ils entraient, le plus vif désir de Lydia était qu'ils ne fussent plus exposés de cette façon anormale à l'action mutuelle de leurs pensées. Elle frémit pourtant lorsque la masse illuminée de l'élégant hôtel anglo-américain dressa sur la rive devant le bateau qui avançait tout ce qu'il représentait d'ordre social, liste des voyageurs, services religieux et douce inquisition de la table d'hôte. Le fait seul que, dans quelques minutes, elle figurerait sur le registre de l'hôtel sous le nom de Mrs. Gannett semblait affaiblir le ressort de sa résistance. Ils avaient eu l'intention de ne passer là qu'une seule nuit, en route pour un village perché vers les glaciers du Mont Rose. Mais dès son premier pas dans la lumière publique de la salle à manger, Lydia éprouva le soulagement d'être perdue dans une foule, de ne plus être, pour un moment du moins, le point de mire de Ganett, et sur le visage de celui-ci, elle saisit le reflet de son propre sentiment. Après le dîner, lorsqu'elle remonta chez elle, Ganett entra par hasard dans le fumoir. Une ou deux heures plus tard, assise dans l'obscurité de la fenêtre, elle entendit en bas le son de sa voix et le vit arpenter la terrasse avec un autre fumeur à son côté. Quand il remonta, il lui dit qu'il avait causé avec le chapelain de l'hôtel, un très brave homme. Quel monde en miniature que ces hôtels! La plupart des gens vivent là tout l'été, puis ils émigrent en Italie ou sur la Riviera. Les Anglais sont les seuls qui sachent mener avec dignité ce genre de vie. Ces vieilles dames à voix douce, drapées dans leur châle du Shetland, emportent avec elles, pour ainsi dire, l'Empire britannique. Kiwis Romanus sum, je suis un citoyen romain. Ce serait une curieuse étude. Il y aurait peut-être là de bons éléments pour moi. Il était debout devant elle, avec ce regard vif et préoccupé du romancier sur la piste d'un sujet. Et ce fut pour elle un nouveau soulagement, mêlé de quelques chagrins, de constater que pour la première fois depuis qu'ils étaient ensemble, il s'apercevait à peine de sa présence. « Pensez-vous pouvoir écrire ici ?»«
Ici, je n'en sais rien, » dit-il en baissant les yeux.
Après être resté si longtemps loin de tout, les premières impressions sont nécessairement très fortes.
Je vois déjà une douzaine de filons à suivre.
Il s'arrêta un peu embarrassé. Alors, il faut les suivre, nous resterons, dit-elle avec une résolution subite.
Restez ici.
Il la regarda tout étonné. Puis il marcha vers la fenêtre et ses yeux plongèrent dans la nuit paisible du jardin.
« Mais pourquoi pas ? »
fit-elle sur un ton d'irritation voilée.
« Oh, cet endroit est plein de vieilles chattes qui potinent avec le chapelain. Seriez-vous bien aise ?
Naturellement, ce serait autre chose si... Elle flamba. Mais que voulez-vous que cela me fasse? Cela ne les regarde pas.
Non, bien entendu, mais vous n'arriverez pas à leur faire admettre.
Oh, elles peuvent penser ce qu'elles voudront.
Gannett la regarda hésitant.
Oh, c'est à vous de décider.
Nous resterons, dit-elle encore.
Gannett, avant qu'ils ne se fussent rencontrés, s'était fait un nom comme auteur de nouvelles et d'un roman qui avait eu l'honneur d'être largement discuté. Les critiques avaient déclaré qu'il promettait beaucoup, et Lydia s'accusait maintenant d'avoir trop longtemps interrompu l'accomplissement de ses promesses. Au début, et n'y a-t-il pas là une particulière ironie, il avait maintes fois juré que ses facultés latentes n'atteindraient jamais leur plein développement qu'auprès d'elle. Cette assurance avait presque donné à la conduite de Lydia la dignité d'une vocation. Il y avait eu des moments où elle s'était sentie incapable d'assumer devant la postérité la responsabilité de borner sa carrière. Et cependant, il n'avait pas écrit une ligne depuis qu'ils étaient ensemble. Son premier désir d'écrire avait jailli au contact repris avec le monde. S'était-il donc trompé ? Le choix le plus intelligent a-t-il des effets plus désastreux que les aveugles combinaisons du hasard ? Ou bien y avait-il pour elle une réponse encore plus humiliante à ses perplexités ? Cette soudaine impulsion d'activité coïncidait trop exactement avec le désir qu'elle-même éprouvait de se soustraire à l'observation de Gannett. Elle se demandait s'il ne recherchait pas lui aussi un refuge contre d'intolérables problèmes.
« Il faut vous mettre au travail demain !» s'écria-t-elle.
Et elle dissimula le tremblement de sa voix dans un rire en ajoutant
« Je me demande s'il y a de l'encre dans mon crier. »
Sans compter le reste, à l'hôtel Bello Sguardo, comme disait la vieille Miss Vincent, on avait un certain ton. C'est à Lady Susan Gondit qu'on devait cet inestimable bienfait. Dans l'opinion de Miss Vincent, il venait même avant les terrains de tennis et le chapelain attaché à l'établissement. La visite annuelle de Lady Susan faisait de l'hôtel ce qu'il était. Miss Pinson aurait été la dernière personne à déprécier un tel privilège.
« Oh, c'est si important, ma chère, » disait-elle à Lydia, « qu'il y ait quelqu'un pour donner le ton à la petite famille que nous formons ici. Et personne n'est plus à même de le donner que Lady Susan, fille d'un grand seigneur et douée d'un caractère si résolu. Tenez, la chère Mrs. Sanger, qui devait remplir ce rôle, vous savez, en l'absence de Lady Susan. Elle refuse absolument de se déclarer. »
Miss Pinson eut un reniflement de dérision.
« C'est la nièce d'un évêque, ma chère. Eh bien, je l'ai vue de mes yeux vus. Céder sa place à table à je ne sais quels Américains du Sud pour leur faire plaisir et devant nous tous. Un tel manque de dignité. »
Lady Susan lui a dit son fait du reste ensuite. Miss Pinson jeta un coup d'œil sur le lac et rajusta ses frisons dorés.
« Mais je ne nie pas, bien entendu, continua-t-elle, que l'attitude de Lady Susan ne soit parfois difficile à imiter pour nous autres. Monsieur Grossard, notre excellent propriétaire, en souffre de temps en temps. Il nous l'a dit en confidence à Mrs. Enger et à moi. Il est naturel, après tout, que le pauvre homme veuille remplir son hôtel, n'est-ce pas ? Et Lady Susan est tellement difficile pour les nouveaux venus. On pourrait même dire qu'elle les condamne d'avance par principe. Cependant, elle a eu des avertissements. Elle a été tout près de commettre une effroyable erreur avec la duchesse de Livens qui se teignait les cheveux, jurait et fumait.
Miss Pinson reprit son tricot en soupirant.
« Oui, il y a bien entendu des exceptions. Elle a eu tout de suite de la sympathie pour vous et pour M. Gannett. Ça a été remarquable, oui, vraiment. Oh, je ne veux pas dire que l'un ou l'autre... Non, bien entendu, non. C'était parfaitement naturel. Tout le monde vous a trouvé si charmant, si intéressant dès le premier jour. Nous savions d'abord que M. Gannett était un lettré par les revues que vous receviez. Mais vous comprenez ce que je veux dire, Lady Susan. Oh, je ne veux pas dire, comme M. Seinger, qu'elle a tellement de préjugés contre les nouveaux venus, mais elle est tellement disposée à ne pas les aimer que nous avons tous été surpris de la voir vous accueillir ainsi, je l'avoue. »
Miss Pinsent lança un coup d'œil significatif par la longue aile de laurier teint. De l'autre bout, un homme et une femme venaient vers Lydia et vers elle.
Oh, dans le cas de ce couple-ci, c'est tout différent, j'en conviens. Ces gens-là ont contre les apparences. Mais, comme dit Mrs. Singer, on ne peut rien affirmer de positif.
Elle est très belle, hasarda Lydia en tournant les yeux vers la femme qui, sous le dôme d'une ombrelle éclatante, montrait la taille exemplaire et le teint merveilleux d'un chrome de Christmas.
C'est le pire de son affaire, elle est trop belle.
Après tout, ce n'est pas sa faute.
Oh, il y a des femmes qui s'arrangent pour ne pas l'être,
fit Miss Pinson d'un ton sceptique. Mais ne trouvez pas Lady Susan un peu injuste, étant donné que l'on ne sait rien d'eux.
Mais, ma chère, c'est justement ce qu'il y a contre eux. C'est infiniment plus fâcheux que n'importe quel renseignement précis.
Lydia songea qu'en effet, dans le cas de la belle Mrs. Linton, cela pouvait bien être vrai.
« Je me demande pourquoi ils sont venus ici, » dit-elle d'un ton rêveur. « Mais cela aussi est contre eux. C'est toujours mauvais signe quand des gens voyants viennent dans un endroit tranquille. » Et ils ont amené des fourgons entiers de caisses. Sa femme de chambre a dit à Miss Hinger qu'ils avaient l'intention de rester un temps indéfini.
Et Lady Susan lui a vraiment tourné le dos dans le hall.
Ma chère, elle a dit qu'elle le faisait pour le salut commun. À cela, il n'y a pas de réplique. Mais ce pauvre Grossard est sans dessus-dessous. Les Linton ont pris, vous le savez, l'appartement le plus cher. Le salon en damas jaune qui est au-dessus de la voûte et ils boivent du champagne à tous les repas.
Elles se turent, tandis que passait près d'elles Mrs. Linton, celle-ci avec un front orageux, le menton provoquant, celui-là, jeune, blond, avec la tête basse de l'enfant qui résiste et que sa bonne tire derrière elle.
« Qu'est-ce que votre mari pense d'eux, ma chère ?» murmura Miss Pearson.
Lydia se baissa pour cueillir une violette dans la bordure.
« Il ne me l'a pas dit. Trouverait-il bon que vous leur adressiez la parole ? Je sais combien les Américaines, comme il faut, sont difficiles. Je suis persuadé que votre façon d'agir aurait de l'importance, et même du poids auprès de Lady Susan. »
« Chère Miss Pinson, vous me flattez. » Lydia se leva et ramassa son livre et son ombrelle.
« Enfin, si l'on vous demande votre opinion, si Lady Susan vous la demande, il me semble que vous ferez bien de préparer votre réponse, » lui jeta Miss Pinson comme elle s'éloignait.
Chapitre 3. Lady Susan ne modifia pas sa manière d'être. Elle ignora les Linton et sa petite famille, pour employer l'expression de Miss Pinsent, suivit son exemple. Miss Hinger elle-même convint que c'était obligatoire. Si Lady Susan devait aux autres de ne pas adresser la parole aux Linton, les autres devaient à Lady Susan de la soutenir. On trouva généralement commode à l'hôtel Bellosguardo d'adopter ce raisonnement. Quel que fût l'effet de cette action combinée sur les Linton, ce ne fut pas du moins de les chasser. Monsieur Grossard, après quelques jours d'incertitude, eut la joie de les voir s'installer dans son appartement de gala, avec tout un appareil de palmiers et de coussins qui annonçait un long séjour. Et ils continuèrent à faire une satisfaisante consommation de champagne. Miss Linton promenait ses toilettes de douce état à travers le jardin avec le même air de défi, tandis que son mari, fumant d'innombrables cigarettes, se traînait d'un air abattu dans son sillage. Mais ni l'un ni l'autre, après leur première rencontre avec Lady Susan, n'avaient tenté aucunement de faire des connaissances. Ils ignoraient simplement ce qui les ignorait. Miss Pinson le faisait observer avec un peu de rancune. Il se comportait exactement comme si l'hôtel eût été vide. Lydia fut donc désagréablement surprise quand, levant les yeux, un jour qu'elle était assise dans le jardin, elle découvrit que l'ombre soudain projetée sur son livre était celle de l'énigmatique Mrs. Linton. « J'ai à vous parler, » dit celle-ci de la belle voix chaude, mais un peu brusque, qui s'accommodait si bien avec sa toilette et son teint. Lydia tressaillit. Elle, certainement, n'éprouvait pas le besoin de parler à Mrs. Linton. « Puis-je m'asseoir là ?» continua l'autre, fixant ses yeux outrageusement peints sur le visage de Lydia. « Ou bien avez-vous peur d'être vue avec moi ?»« Peur ?» Lydia rougit. « Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'avez-vous à me dire ?» Mrs. Linton, avec un sourire, approcha une chaise et croisa l'une sur l'autre ses chevilles chaussées de bas à jour. « Je désirerais savoir ce que mon mari a dit au vôtre hier soir. » Lydia pâlit. « Mon mari au vôtre ?» reprit-elle avec hésitation. « Mais ne savez-vous pas qu'ils se sont enfermés ensemble pendant des heures dans le fumoir, après que vous êtes remontée ? Mon époux ne s'est couché qu'à 2 heures, et même alors je n'ai pas pu tirer de lui un seul mot. Quand il veut être insupportable, il n'a pas son pareil. » Les dents et les yeux de Miss Linton jetèrent à Lydia un éclair persuasif. « Ne me direz-vous pas ce qu'ils ont raconté ? Je sens que je peux avoir confiance en vous. Vous avez l'air si aimable. Ce que j'en fais du reste, c'est pour son bien. Ce pauvre garçon est si bêta. J'ai peur qu'il ne se soit fourré dans quelque pétrin. Si seulement il voulait écouter sa bonne vieille femme. Mais ils lui écrivent sans cesse et l'excitent contre moi. Et je n'ai personne autre à qui m'adresser. » Elle posa la main sur la main de Lydia avec tout un cliquetis de bracelet. « Vous m'aiderez, n'est-ce pas ?» Lydia se recula, intimidée par son ardeur souriante. « Mais je suis désolée, mais je crains de ne pas comprendre. Mon mari ne m'a pas parlé du vôtre. » Les noirs sourcils de Mrs. Linton se broncèrent. « Est-ce bien vrai ?» Lydia se leva. « Oh, je vous en prie, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Il ne faut pas me ramasser comme ça. Ne voyez-vous pas que je suis bouleversée ?» Lydia s'aperçut qu'en effet, au-dessous de ses yeux adoucis, sa jolie bouche tremblait. « Je n'ai plus ma tête !» gémit la belle créature en s'écroulant sur son siège. « Je suis désolée !» répéta Lydia, s'efforçant de prendre un ton aimable. « Mais comment puis-je vous aider ?» Mrs. Linton releva le front vivement. « En découvrant !»« Allons, soyez bonne !» Et en découvrant quoi ? Ce que Trevena lui a dit.
Trevenna ?
Répéta Lydia effarée. Miss Linton mit sa main sur sa bouche.
« Oh, Seigneur, voilà que j'ai lâché ça, que je suis bête.
Mais je croyais que vous saviez, je croyais que tout le monde savait. »
Elle essuya ses yeux et se redressa.
« Ne saviez-vous pas que c'est Lord Trevenna ? Moi, je suis Mrs. Cope. »
Lydia reconnut les mots. Ils avaient figuré dans un enlèvement sensationnel qui avait ému le tout Londres élégant 6 mois auparavant.
Maintenant que vous voyez ce qu'il en est, vous comprenez, n'est-ce pas ? Continua Mrs. Cope sur un ton suppliant.
Oui, je savais bien que vous comprendriez, c'est pourquoi je suis venu à vous.
Je suppose que lui, il a eu le même sentiment à l'égard de votre mari. Il n'a parlé à personne autre ici.
Son visage redevint anxieux. Il est horriblement timide en général. Il dit qu'il souffre de notre situation, comme si ce n'était pas à moi d'en souffrir. Mais quand il est en veine de bavardage, on ne peut pas savoir ce qu'il racontera.
Je sens qu'il a ruminé quelque chose ces jours-ci, et il faut que je découvre quoi. Il le faut dans son intérêt. Je lui dis toujours que je ne pense qu'à son intérêt, si seulement il avait confiance en moi. Mais il a été si drôle ces jours-ci. Je ne sais pas ce qu'il peut comploter. Vous m'aiderez, n'est-ce pas, ma chère ?
Lydia, qui était restée debout, se détourna mal à son aise.
Si vous prétendez que je découvre ce que Lord Trevenna a dit à mon mari, je crains fort que ce ne soit impossible.
Mais pourquoi impossible ?
Parce que je présume qu'il leur a dit en confidence.
Mrs. Cope la regarda incrédule.
« Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? Votre mari a l'air si gentil. Il est clair pour tout le monde qu'il est très épris de vous. Qu'est-ce qui vous empêche de lui tirer les vers du nez ?»
Lydia rougit jusqu'aux oreilles. « Je ne suis pas une espionne !» s'écria-t-elle.
Miss Cope sursauta. « Une espionne ! Une espionne ! Pouvez-vous employer un mot pareil ? Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous fâchez pas, je suis si malheureuse. »
Et elle essaya d'inflexion plus douce.
« Appelez-vous une espionne, la femme qui en aide une autre ? J'ai tant besoin d'aide. Je suis au bout de mon rouleau avec Trevenna. C'est un tel enfant, un bébé, vous savez. » « Il n'a que 22 ans. »
Elle baissa ses paupières soulignées.
« Il est plus jeune que moi, pensez donc, de quelques mois plus jeune. Je lui répète qu'il devrait m'écouter comme si j'étais sa mère. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais il ne veut pas, il ne veut pas. Il a toute sa famille sur le dos, voyez-vous. Oh, je vois bien leur jeu. » Ils tâchent de nous séparer avant que j'aie obtenu mon divorce. Voilà où ils veulent en venir. Au début, ils ne voulaient pas les écouter. Ils me jetaient leurs lettres pour que je les lise, mais maintenant il les lit lui-même, et j'ai idée qu'il y répond. Il est toujours enfermé dans sa chambre à écrire. Si je connaissais seulement son plan, je pourrais l'arrêter court. C'est un tel nigaud. Mais il est aussi très dissimulé. Il y a des moments où je ne le comprends plus. Mais je sais qu'il a tout dit à votre mari. Je l'ai vu hier soir au premier coup d'œil. Et il faut que je découvre, il faut que vous m'aidiez. Je n'ai personne d'autre à qui m'adresser. »
Elle saisit la main de Lydia et la pressa frénétiquement. Dites, que vous m'aiderez, vous et votre mari, dites-le. »
Lydia tâcha de se dégager.
« Ce que vous demandez est impossible. Vous devez bien le voir. Personne ne peut s'immiscer dans cette affaire-là. »
L'étreinte de Biscop se resserra encore.
« Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? »
« Non, certainement non. Lâchez-moi, je vous prie. » Mrs. Coppola lâcha en éclatant de rire.
« Vous pouvez aller, parbleu, je ne vous retiendrai pas de force. »« Irez-vous de ce pas dire à Lady Susan Condit que nous faisons la paire, ou bien voulez-vous que je me charge de l'éclairer ?»
Lydia restait immobile au milieu de l'allée, ne voyant plus son adversaire qu'à travers une brume d'épouvante. Mrs. Com riait toujours.
« Vous savez, ma chère, je ne suis pas méchante, mais vous en exigez un peu plus qu'il ne faut en demander à une créature en chair et en os. C'est impossible, c'est impossible. Il faut que je vous lâche, oui. Vous êtes trop comme il faut pour vous mêler de mes affaires, n'est-ce pas? Mais, petite bête, la première fois que je vous ai vue, j'ai compris que vous et moi, nous étions toutes les deux à fourrer dans le même sac. Voilà pourquoi je me suis adressé à vous. »
Elle fit un pas et son sourire se dilatait en approchant de Lydia comme une lampe à travers le brouillard.
« Vous avez le choix, vous savez. Je joue toujours franc jeu. Si vous le dites vous-même, je promets de me taire. Eh bien, qu'est-ce que vous décidez ?»
Lydia, machinalement, avait commencé de s'éloigner pour échapper à cette furieuse rafale de paroles. Mais à cette sommation, elle se retourna et vint se rasseoir. « Allez, » dit-elle simplement, « je reste ici. » Chapitre 4. Elle demeura là longtemps, comme hypnotisée, et à contempler non le présent de Mrs. Cop, mais son propre passé. Ganette, de bonne heure, ce matin-là, était parti pour une longue promenade. Il avait pris l'habitude de vagabonder ainsi dans la montagne avec divers compagnons d'hôtel. Mais eût-il été à sa portée, Lydia ne serait pas allée le trouver maintenant. Elle avait trop à faire avec elle-même d'abord. Elle reconnaissait avec surprise à quel point, dans ces derniers mois, elle avait perdu l'habitude de l'examen de conscience. Depuis leur arrivée à l'hôtel Bello Sguardo, elle et Ganette s'étaient facilement évités eux-mêmes, comme s'ils s'évitaient l'un l'autre. Elle fut rappelée à elle-même par le sifflet du bateau de 3 heures qui approchait du débarcadère. Le débarcadère était à 2 pas de la grille. 3 heures, Ganette serait bientôt de retour. Il lui avait dit de l'attendre avant 4 heures. Elle se leva brusquement, se détourna de l'hôtel, de cette façade inquisitive. Elle n'avait pas encore le courage de voir Ganette de rentrer. Elle se glissa dans une des allées couvertes, puis s'engagea dans un sentier qui menait à la montagne. Il faisait nuit quand elle ouvrit la porte de leur salon. Ganette était assise sur le rebord de la fenêtre, fumant une cigarette. La cigarette, maintenant, était sa grande ressource. Il n'avait pas écrit une ligne durant les 2 mois qu'il venait de passer à l'hôtel Bello Sguardo. Sous ce rapport, ce n'était décidément pas le milieu rêvé. À son entrée, il se leva. « Où étiez-vous donc? Je commençais à m'inquiéter. » Elle s'assit sur une chaise près de la porte. « Dans la montagne, » dit-elle sur un ton de lassitude. « Seule? Oui. » Il jeta sa cigarette. La voix avait sonné de telle sorte qu'il éprouvait le besoin de voir la figure. « Allumons-nous ? » suggéra-t-il. Comme Lydia ne répondait pas, il souleva le globe de la lampe et mit une allumette contre la mèche.
puis il la regarda. « Qu'y a-t-il? Vous semblez éreinté. » Elle s'assit et parcourut d'un œil vague le petit salon où la pâle lueur de la lampe permettait à peine de deviner les lignes du mobilier, le bureau couvert de livres et de papier, les gerbes de jasmin et de roseté qui se fanaient sur la cheminée. « Comme tout cela est devenu cher et familier, » pensa-t-elle. « Lydia, qu'y a-t-il ? » répéta Gannett. Elle s'éloigna de lui, tâta les épingles de son chapeau et s'écarta pour poser sur la table chapeau et ombrelle. Et tout à coup elle dit « Cette femme m'a parlé. » Gannett ouvrit de grands yeux. « Cette femme, quelle femme ?»« Mrs. Linton, ou plutôt Mrs. Cope. » Il eut un geste d'ennui, mais elle vit clairement qu'il ne saisissait pas toute l'importance de ses paroles. « Diable, elle vous a dit ? » ?»«
Elle m'a tout dit. »
Gannett la regarda anxieusement. « Quelle impudence ! Oh, je suis navré, ma chérie, que vous ayez été exposée à pareille chose. »«
Exposée ?» Lydia se mit à rire.
Le front de Granette se rembrunit et ils détournèrent les yeux l'un de l'autre.
« Savez-vous pourquoi elle m'a tout raconté ? Pour la meilleure des raisons. » Parce qu'à première vue, elle a deviné que nous étions toutes les deux à fourrer dans le même sac.
Lydia ! Il était donc tout naturel que, dans son embarras, elle eut recours à moi. Mais quel embarras !
Ben, elle a lieu de croire, paraît-il, que la famille de Lord Trevenage cherche à le faire rompre avant qu'elle ait obtenu son divorce.
Alors ?
Elle s'est imaginée qu'il vous avait consulté hier soir sur le meilleur moyen de se débarrasser d'elle. »
Gannett se leva furieux. « Eh bien, en quoi toute cette sale affaire vous regarde-t-elle ? Pourquoi cette femme est-elle allée vous trouver ? » ?»«
Vous ne le voyez pas, c'est pourtant bien simple. Je devais vous soutirer le secret de Lord Trevenant.
Pour l'obliger, elle ?»
Oui, ou bien si je ne voulais pas l'obliger, pour me préserver, moi.
Pour vous préserver, vous, et de qui ?
D'elle, qui pourrait dire à tout le monde dans l'hôtel que nous sommes toutes les deux à fourrer dans le même sac.
Elle vous en a menacé ?
Elle m'a laissé le choix de le dire moi-même ou de le laisser dire par elle.
« La gueuse !»
Il y eut un long silence. Lydia s'était assise sur le canapé, hors du cercle de la lampe. Gannett s'appuyait contre la fenêtre.
« Quand cela s'est-il passé ? Enfin, je veux dire, à quelle heure ?»
Elle lui jeta un regard vague. « Je ne sais pas. Après le déjeuner, je crois. » « Oui, je me rappelle, c'était vers 3 heures. »
Gannett revint au milieu de la pièce et, comme il approchait de la lumière, Lydia vit que son front s'était éclairci.
« Mais pourquoi me demandez-vous cela ? » dit-elle.
« Parce que, au moment où je suis rentré vers 3h30, on distribuait le courrier, et Mrs. Cope attendait, comme d'habitude, pour fondre sur ses lettres. » Vous savez qu'elle gâte toujours le facteur. Comme elle était tout près de moi, je n'ai pu m'empêcher de voir une grande enveloppe d'aspect officiel qu'on lui remettait. Elle la déchira, jeta un coup d'œil sur le contenu et fila en coup de vent pour remonter chez elle, tandis que le gérant lui criait qu'elle avait oublié toutes ses autres lettres. Je ne crois pas qu'elle ait un moment repensé à vous après ce que ce papier fut dans ses mains.
« Mais pourquoi ?»«
Parce qu'elle était trop affairée.
J'étais à la fenêtre, vous guettant, lorsque le bateau de 5 heures est parti. Et devinez qui j'ai vu monter à bord, avec armes et bagages, domestiques, femmes de chambre, sacs de voyage et caniches. Mrs. Cope et Trevena. Juste 1 heure et demie pour tout emballer. Et il fallait la voir quand ils sont partis. Elle était radieuse, serrant la main à tout le monde, agitant son mouchoir du haut du pont, distribuant des seins et des sourires comme une impératrice. Si jamais femme a reçu à point nommé ce qu'elle désirait, c'est bien celle-là. Je parie qu'avant 1 semaine, elle sera Lady Trevena.
Vous croyez qu'elle a son divorce?
J'en suis sûr. Elle doit en avoir reçu précisément la nouvelle après sa conversation avec vous.
Lydia garda le silence. À la fin, elle dit avec une espèce de gêne.
Elle était furieuse quand elle m'a quitté. Il ne fallait pas beaucoup de temps pour parler à Lady Susan Condit.
Elle n'a pas parlé à Lady Susan Condit.
Comment le savez-vous?
Parce qu'en descendant, il y a 1 demi-heure, j'ai rencontré Lady Susan.
Il se tut avec un demi-sourire.
Eh bien,
et elle s'est arrêtée pour me demander si je pensais que vous consentiriez à être patronesse d'un concert de charité qu'elle organise.
Malgré eux, ils éclatèrent de rire. Le rire de Lydia finit par des sanglots, et elle tomba sur un fauteuil, la figure cachée dans ses mains. Gannette se pencha sur elle et s'efforça de dégager son visage.
« La vilaine femme, dit-il, j'aurais dû vous prévenir de vous tenir à distance. Je ne me pardonne pas d'y avoir manqué. » Il m'avait parlé sous le sceau du secret, et je n'aurais jamais imaginé. Enfin, tout cela est fini.
Lydia leva la tête. Pas pour moi, ce n'est que le commencement.
Que voulez-vous dire?
Elle l'écarta doucement et se dirigea vers la fenêtre. Là, tournée vers l'obscurité du lac, elle continua.
C'est que, voyez-vous, cela pourrait arriver encore à tout moment.
Quoi?
Ben, cela, ce risque d'être découvert. Et nous pourrions difficilement compter une autre fois sur une aussi heureuse combinaison de hasard.
Il s'assit en gémissant. Elle, obstinément tournée vers la nuit, reprit alors.
Je désire que vous alliez tout dire à Lady Susan et aux autres.
Gannette, qui marchait vers elle, s'arrêta.
Mais pourquoi?
Dit-il enfin, avec moins de surprise dans la voix qu'elle ne s'y attendait.
Parce que je me suis conduite bassement, abominablement, depuis que nous sommes ici, laissant croire à ces gens que nous étions mariés, mentant, pour ainsi dire, chaque fois que je respirais.
Oui, c'est ce que j'ai senti aussi, s'écria Gannette avec une énergie soudaine.
Ces mots secouèrent Lydia comme une tempête. Il lui sembla que toutes ses pensées tombaient autour d'elle en ruine.
Vous aussi, vous avez senti cela?
Oui, certes, répondit-il d'une voix basse et véhémente.
Me croyez-vous donc mieux fait que vous pour le rôle de lâche que nous jouons? C'est une infamie.
Il retomba sur le bras d'un fauteuil, et tous deux se regardèrent comme des aveugles qui tout à coup voient clair.
Mais cependant, vous vous êtes plu ici, dit-elle avec hésitation.
Oh oui, je me suis plu ici.
Il se mit à marcher avec impatience. Vous aussi, n'est-ce pas ?
Oui, s'écria-t-elle. C'est ce qu'il y a de plus... Enfin, ce que je ne puis plus supporter. Je croyais rester pour vous, parce que vous pensiez pouvoir écrire ici, et peut-être au début, était-ce vraiment la raison ? Mais ensuite, c'est pour moi que j'ai voulu rester ici. Je m'y suis plus. Ah, voyez-vous, la meilleure dérision de la chose. Ces gens, les prototypes même des gens d'assommant dont vous m'aviez éloigné, avec les mêmes œillères, la même moralité qui consiste à ne pas marcher sur les gazons, les mêmes petites vertus circonspectes et les mêmes petits vices poltrons, eh bien, je me suis cramponné à eux, j'en ai fait mes délices, j'ai fait de mon mieux pour leur plaire. J'ai flagorné Lady Susan, j'ai potiné avec Miss Pinsent, j'ai été bagel avec Miss Hanger. La respectabilité, c'était la chose du monde qui, j'en étais persuadé, m'était la plus indifférente. Et voilà qu'elle m'est redevenue si précieuse que je l'ai volée parce que je ne pouvais plus l'avoir autrement. Elle traversa la pièce, revint près de Gannett et se mit à rire de nouveau. Moi, qui me croyais si ennemi du convenu, on dirait que je suis né un porte-carte à la main. Il fallait me voir avec cette pauvre femme dans le jardin. Elle est venue, la malheureuse, me demander aide parce que, d'après elle, ayant péché, comme ils disent, je devais avoir quelque pitié de celles qui ont succombé aux mêmes tentations. Eh bien non, elle ne me connaissait pas. Lady Susan aurait été plus compatissante, parce que Lady Susan n'aurait pas eu peur. J'ai détesté cette femme. Je n'ai eu qu'une seule idée, ne pas être vue après qu'elle. Je l'aurais tuée pour avoir deviné mon secret. La seule chose qui m'importait à ce moment, c'était ma position auprès de Lady Susan. Gannett ne disait rien. Et vous ? Vous l'avez senti aussi, continua-t-elle d'un ton amer. Vous avez été tout aussi heureux que moi de vous trouver avec ces gens-là. Vous avez laissé le chapelain pour parler pendant des heures religion et morale. Lorsqu'on vous a prié de faire la quête au temple, je vous guettais. Vous aviez envie d'accepter. Elle vint tout contre lui, appuya la main sur son bras. Savez-vous que je commence à voir à quoi sert le mariage ? À tenir les gens à l'écart l'un de l'autre. Je me dis quelquefois que deux êtres qui s'aiment ne peuvent être sauvés de la folie que par tout ce qui vient se mettre entre eux. Enfants, devoirs, visites, corvées, relations, tout ce qui protège l'un contre l'autre, les gens mariés. Nous avons vécu dans une intimité trop étroite. Voilà notre péché. Nous avons vu nos âmes à nu. Elle retomba sur le canapé, la tête dans ses mains. Gannett restait debout devant elle, perplexe. Il lui semblait qu'elle était entraînée par quelque implacable courant, tandis qu'il demeurait inutile sur la rive. Enfin, il parla. « Lydia, ne me dites pas que je suis stupide, mais ne voyez-vous pas vous-même que cela ne peut continuer ainsi ?»« Oui, je le vois bien, » fit-elle sans lever la tête. Le visage de Gannett s'éclaira. « Alors, nous partirons demain. » Nous partirons, mais pour aller où ?
À Paris, nous marier. Elle resta longtemps sans répondre. Puis elle dit lentement : Consentirait-on à nous recevoir ici si nous étions mariés ? Nous recevoir ici ? Oui, je veux dire, Lady Suzanne et les autres. Nous recevoir? Mais oui, naturellement.
Pas s'il savait, à moins qu'il ne fît semblant de ne pas savoir.
Il eut un geste d'impatience. Nous ne reviendrons pas ici, certainement, et les autres n'ont pas besoin de savoir. Personne n'a besoin de savoir.
Elle soupira. Alors, ce n'est qu'une autre forme de tromperie, et plus méprisable encore. Est-ce que vous ne le voyez pas?
Je vois que nous ne devons pas de compte à Lady Suzanne, ni à ses pareils.
Alors pourquoi avez-vous honte de ce que nous faisons ici?
Parce que j'en ai assez de faire comme si vous étiez ma femme quand vous ne l'êtes pas, quand vous ne voulez pas l'être.
Elle le regarda tristement. Mais si j'étais votre femme, il vous faudrait continuer. Il vous faudrait faire comme si je n'avais jamais été autre chose. Et nos amis seraient forcés de faire comme s'ils nous croyaient.
Gannett arracha le gland du canapé et le jeta violemment par terre. « Vous êtes impossible !» gémit-il.
« Ce n'est pas moi. C'est de vivre ensemble qui est impossible pour nous. Je veux seulement vous montrer que le mariage n'y ferait rien. »
« Qu'est-ce qui pourrait y faire quelque chose, alors ?»
Elle releva la tête. « Que je vous quitte. »«
Que vous me quittiez ?»
Il restait là, sur le canapé, immobile, regardant le gland qui gisait à l'autre bout de la pièce. Enfin, poussé par quelque instinct de lui rendre la douleur qu'elle lui infligeait, il dit lentement,
« Et où iriez-vous, si vous me quittiez ?»«
Oh !» s'écria-t-elle. Aussitôt, il fut à son côté. « Lydia, Lydia, vous savez bien que ce n'est pas là ce que je voulais dire. Mais vous m'avez mis hors de moi, je ne sais plus ce que je dis. Ne pouvez-vous donc cesser de vous torturer ainsi vous-même ? C'est nous détruire tous les deux. C'est pourquoi il faut que je vous quitte.
Comme vous dites cela facilement.
Il abaissa les mains de Sylvia et la contraignit de regarder en face.
Vous êtes très scrupuleuse pour vous et pour les autres. Mais avez-vous pensé à moi ? Vous n'avez pas le droit de me quitter à moins que vous n'ayez cessé de m'aimer.
Mais c'est parce que je vous aime.
Alors j'ai le droit d'être écouté. Si vous m'aimez, vous ne pouvez pas me quitter.
Les yeux de Lydia le défièrent. Pourquoi pas ? Il lâcha ses mains et se leva.
Vous le pourriez ?
Dit-il tristement. Il était tard, la lueur de la lampe vacilla et s'éteignit. Lydia se mit debout avec un frisson et se dirigea vers sa chambre. Chapitre 5. Au petit jour, un bruit qui se faisait dans la chambre de Lydia réveilla Gannett d'un sommeil inquiet. Il se mit sur son séant. Il écouta. Elle remuait doucement, comme si elle eût craint de le déranger. Il l'entendit repousser une des persiennes qui grinça. Puis il y eut un moment de silence. Il pensa qu'elle attendait de savoir si le bruit l'avait réveillée. Bientôt, elle recommença de remuer. Elle avait eu sans doute une nuit d'insomnie et s'habillait pour aller respirer au jardin. Gannett se leva aussi, mais par un indéfinissable instinct, ses mouvements étaient aussi prudents que ceux de Lydia. Il se glissa vers la fenêtre à pas de loup et regarda par les lames de la persienne.
Il avait plu pendant la nuit. L'aube était grise et triste. Les montagnes de l'autre côté du lac, emmitouflées de nuages, se réfléchissaient à sa surface comme dans un miroir terni. Dans le jardin, les oiseaux commençaient à secouer les gouttes de rosée qui pendaient aux branches des lauriers immobiles. Ganette se sentit pris d'une immense pitié. L'apparente indépendance intellectuelle de Lydia l'avait aveuglé, lui pour un temps, sur le caractère féminin de son esprit. Il n'avait jamais songé qu'elle pût, tout comme les autres femmes, pleurer et chercher un appui. Ses intuitions étaient d'une telle lucidité qu'on les prenait pour le résultat d'un raisonnement. Il voyait maintenant la cruauté qu'il avait commise en la détachant des conditions normales de la vie. Il constatait la profondeur avec laquelle Lydia avait pénétré jusqu'à la véritable cause de leur souffrance. Leur vie était impossible, comme elle l'avait dit. Et son pire châtiment, c'était qu'elle avait rendu toute autre vie impossible pour eux. Même si son amour à lui avait diminué, il s'était lié à Lydia maintenant par tous les liens de la pitié et du remords. Et elle, la pauvre enfant, était forcée de revenir à lui comme l'attude à son cachot. Un nouveau bruit le fit tressaillir. C'était la porte de Lydia qui se fermait avec précaution. Il s'approcha de la sienne sur la pointe des pieds. Il entendit les pas de Lydia s'éloigner dans le couloir. Alors il retourna à sa fenêtre et regarda dehors. Une ou deux minutes après, il la vit descendre les marches du porche et entrer dans le jardin. Il ne pouvait distinguer sa figure, mais il y avait dans son extérieur quelque chose qui le frappa. Elle portait un long manteau de voyage, sous les plis duquel il reconnut le relief d'un sac ou d'un paquet. Il poussa un grand soupir et continua de l'observer. Elle descendit rapidement l'allée de laurier-thym qui menait à la grille, puis elle s'arrêta un moment et parcourut des yeux la petite place ombragée. Sous les arbres, les bancs de pierre étaient vides. Elle parut puiser du courage dans la solitude qui l'entourait, car elle traversa la petite place vers l'embarcadère du vapeur et fit une pause devant le guichet au bout du quai. Maintenant, elle prenait son billet. Ganette se retourna pour regarder l'heure à la pendule. Le bateau serait là dans 5 minutes. Il n'avait que le temps de sauter dans ses habits et de la rejoindre. Il ne bougea pas. Une force obscure le retint. Si, dans le tumulte de ses sentiments, une pensée surnageait, c'était qu'il devait la laisser aller si tel était son désir à elle. La veille au soir, il avait parlé de ses droits à lui, mais quels droits ! En fin de compte, ils étaient lui et elle, deux êtres séparés qui n'étaient pas fondus en un seul par le miracle de corvée, d'obligation, d'abnégation commune, mais se trouvaient liés ensemble dans une noyade de passion où ils résistaient tout à la fois et se cramponnaient l'un à l'autre en coulant. Après avoir pris son billet, Lydia était restée là un moment, les yeux errants à travers le lac. Puis il la vit s'asseoir sur un des bancs près de l'embarcadère. Lui et elle, à 7 minutes, guettaient le même son, le sifflet du vapeur qui doublerait le promontoire voisin. Ganette se retourna pour regarder encore la pendule. C'était l'heure du bateau, maintenant. Où irait-elle ? Que serait sa vie après qu'elle l'aurait quittée ? Elle n'avait pas de proches parents, elle avait peu d'amis. De l'argent, elle en avait assez, mais elle demandait tant de choses à la vie, et si complexe, et tellement immatérielle. Il se la figura marchant du pied à travers un désert pierreux. Personne ne la comprendrait, personne ne la plaindrait, et lui, qui la comprenait et qui la plaignait, il était impuissant à lui venir en aide. Il vit qu'elle s'était levée de son banc et qu'elle s'était avancée vers le bord du lac. Elle resta là, regardant du côté d'où devait venir le vapeur. Puis elle retourna au guichet, sans doute pour demander la cause du retard. Ensuite, elle revint vers le banc et s'y assit, la tête penchée. « À quoi » pensait-elle. Le sifflet retentit soudain. Lydia tressaillit et Ganette fit un mouvement involontaire vers la porte. Puis il revint à son poste et continua de l'observer. Elle restait là, immobile, les yeux fixés sur la tramée de fumée qui précédait l'apparition du bateau. Enfin, le petit bâtiment contourna la pointe. Un cadavre blanc sur l'eau couleur de plomb. Une minute après, haletant, il faisait machine en arrière contre le quai. Les quelques voyageurs qui l'attendaient, deux ou trois paysans et un prêtre, étaient groupés autour du guichet. Lydia demeurait à part, sous les arbres. Le vapeur était maintenant à quai. On jeta la passerelle et les paysans montèrent avec leurs paniers de légumes suivis du prêtre. Cependant, Lydia ne bougeait toujours pas. Une cloche tinta plaintivement, puis ce fut un rugissement de vapeur. Quelqu'un apparemment avait crié à la voyageuse qu'elle serait en retard. Elle s'élança comme pour répondre à un appel. Elle s'avança d'un pas indécis, puis au bord du quai, elle s'arrêta. Ganette vit un matelot lui faire signe, la cloche sonna encore, et Lydia mit le pied sur la passerelle. À mi-chemin de la courte pente qui menait au pont, elle s'arrêta de nouveau, puis se retourna et revint en courant au bord. On retira la passerelle, la cloche cessa de tinter et le bateau se remit en marche. Lydia, lentement, revenait vers le jardin. En approchant de l'hôtel, elle leva furtivement les yeux. Ganette disparut de la fenêtre. Il s'assit auprès de la table. Un indicateur était là, sous sa main, et machinalement, sans savoir ce qu'il faisait, il se mit à chercher les heures des trains pour Paris.